15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Benadiba.
Bonjour Mélanie.
Alors, on vous invite aujourd'hui pour parler d'un type d'intervention dont on parle peu, hein, mais parce que c'est un petit peu tabou, peut-être encore, on va en parler, mais qui serait en tout cas de plus en plus fréquent chez les femmes, les chirurgies de l'intime. Normalement, c'est ce qu'on appelle, celle-là, on en a entendu parler, c'est la nymphoplastie, la labioplastie, un geste esthétique au niveau des lèvres. On n'arrête pas de lire un peu partout que c'est en augmentation. Ça augmente vraiment les demandes sur ce type d'intervention?
Oui, absolument. Hein. Moi, j'ai commencé en 2004 à faire mes premières nymphoplastie, puisque c'est le terme le plus connu. Et aujourd'hui, c'est toujours en constante croissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins, en tout cas de chirurgiens plasticiens et gynécologues qui proposent cette intervention.
Et cette augmentation, elle est dans quelle tranche d'âge? Parce que c'est vrai qu'on lit aussi dans cette presse féminine que même chez des très jeunes filles, cette demande, elle augmente.
Oui, chez les très jeunes, et ça c'est un peu étonnant, on a de plus en plus de demandes. De part de la médiatisation de ce type de problème, l'accès à la pornographie aussi des très jeunes, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles se posent des questions, même très jeunes, et en parlent aussi avec leurs parents.
Jimmy ?
Et justement, ces jeunes filles qui viennent consulter, elles viennent seules ou finalement avec leurs parents qui cautionnent ou qui valident en tout cas cette démarche ?
Alors, dans mon cas, elles viennent toujours accompagnées de leurs parents. Ça, je l'exige parce que ce sont des mineurs. Et bien souvent, elles viennent adressées par leur gynécologue. Donc, il y a tout un vrai parcours. C'est-à-dire, la patiente en parle à ses parents. On en parle au gynécologue de famille. Et ensuite, on vient voir un spécialiste.
Parce que vous dites jeune, mais jeune, c'est quel âge?
Alors, jeune, c'est mineur. Donc, mineur, dans ce cas-là, oui, j'exige d'avoir les parents.
Donc, ensuite, c'est pas qu'il y a des filles de 12 ans ou 13 ans, c'est 16 ou 17 ans. Hein,
La plus jeune que j'ai opérée avait 14 ans.
Oui.
Mais à 14 ans, elle avait une taille d'adulte, elle avait une morphologie d'adulte, donc effectivement, elle avait déjà une indication chirurgicale.
Et des lèvres qui nécessitaient vraiment une intervention,
sûr.
C'est ça.
Voilà, là, on n'est plus dans l'esthétique, on est vraiment dans le fonctionnel. Ce sont des jeunes filles très gênées, voire très complexées, qui n'ont pas encore eu de vie amoureuse et qui peuvent être, comme je l'avais souvent dit, être gênées parce que dans le sport, j'ai eu une sportive de compétition, une judokate, qui avait des frottements et des irritations très gênante pour elle dans son activité sportive.
Ce qu'on vous demande en général, c'est bon, de les faire plus petites, j'imagine. Hein, on demande rarement de les agrandir, non ?
Non, on ne les agrandit jamais, d'ailleurs, ce n'est pas possible. On peut agrandir les grandes lèvres, ou en tout cas les repulper, mais pour les petites lèvres, c'est toujours une réduction. Après, la réduction, elle doit être à la fois esthétique, mais surtout fonctionnelle, parce qu'il ne faut pas les amputer, il ne faut pas faire ce qu'on appelle le Barbie look.
D'accord. Jimmy ?
Oui, justement, le Barbie look, c'est l'influence finalement du culte de la Barbie, avec une femme sans poils, un pubis parfait, je mets des guillemets, avec rien qui dépasse. C'est pas raisonnable ce genre de volonté de transformation?
Pas du tout, parce qu'en réalité, les petites lèvres ont un rôle très important, c'est un rôle fonctionnel de protection de l'entrée du vagin. On parlera plus tard de sécheresse vaginale, ça peut induire des sécheresses vaginales. Donc c'est notre rôle d'être conservateur, de faire des interventions qui sont réparatrices, esthétiques, aussi bien sûr, mais de conserver une anatomie normale.
Alors quand vous donnez le feu vert, que vous autorisez ces interventions, vous êtes d'accord pour la faire, qu'il y a une indication selon vous, ça se passe comment au bloc? Ça se passe, bon, j'imagine sous anesthésie générale, non, même pas?
Non, même pas.
Ah bon?
Aujourd'hui, ça fait près de 10 ans que je fais cette intervention sous anesthésie locale. D'ailleurs, c'est bien souvent les patientes qui demandent une anesthésie locale parce que ça fait toujours peur de se faire endormir. Mm-hmm. C'est tout à fait possible et tout à fait supportable parce que ce n'est pas une zone très douloureuse, c'est une zone sensible. Et c'est une anesthésie locale confortable avec un peu de pommade Emla avant, une petite sédation si possible. Et ça se passe très bien. L'intervention est courte, ça dure en général 30 minutes, 30-40
oui,
minutes.
Rapide.
Donc voilà, bon, ça reste une intervention quand même délicate.
Mais vous faites quoi? Vous amputez? Vous coupez?
Alors, on n'ampute pas, non, en fait, techniquement, on fait ce qu'on appelle un V. On va dessiner un V au centre de la petite lèvre. En enlevant ce V, ce triangle, on va réduire. C'est ce qu'on appelle une plastie en V. Après, il y a dans la suture des détails qui font que ça va être solide et rapidement cicatrisé.
Jimmy ?
Parce que justement, au niveau de la cicatrice, elles se situent où? Elles sont finalement visibles ensuite par la suite? Parce qu'il peut aussi y avoir des complications dans la vie intime si des cicatrices
absolument
sont visibles.
Absolument. C'est une intervention qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que c'est toute la féminité, l'intime d'une femme qui peut être brisée. Je vois parfois des patientes malheureusement mal opérées, trop opérées, pour lesquelles je ne peux rien faire. Donc la chirurgie doit être simple, mais elle doit être conservatrice. Il faut apprécier exactement ce qui est en trop et l'enlever et avoir une réparation qui est très efficace. La cicatrisation est un peu longue, hein. Il faut compter un mois de cicatrisation. Donc c'est des patientes qui sont très motivées parce qu'en un mois, elles n'auront pas de vie sexuelle, pas de possibilité de mettre des tampons, pas de baignade, de sport. Donc, c'est assez contraignant. Mais elles le font, ça prouve bien leur gène.
Et quand on sort de cette intervention, on dort à l'hôpital, on rentre chez soi, comment ça se passe?
Non, alors comme c'est sous anesthésie locale, l'intervention, je vous dis, dure moins d'une heure. On va garder généralement la patiente une bonne heure après avec un petit antalgique dans les suites et la patiente rentre chez elle. Si elle n'a pas de gêne, s'il n'y a pas de douleur, elle peut au bout de 24-48 heures reprendre une vie normale.
Jimmy ?
Et évidemment, cette technique de chirurgie de précision, presque de la microchirurgie, ça a un coût, il faut compter combien ?
Alors en France, ce qui est intéressant, c'est que cette intervention est considérée comme la chirurgie réparatrice. Donc il y a une prise en charge possible par la Sécurité sociale qui est malheureusement assez dérisoire. De l'ordre de 50 euros.
Ah oui, c'est
mais ouais. Ça peut permettre à la patiente d'avoir un remboursement de ses frais de clinique, c'est dans une clinique conventionnée.
La mutuelle derrière qui peut
la
prendre.
La mutuelle, ouais. Voilà. Et puis si elle est en milieu hospitalier, eh bien, ce sera gratuit, il faut le savoir, dans les services de chirurgie réparatrice.
Mais l'opération elle-même, le coût, c'est...
L'intervention, alors le coût maximum, c'est de l'ordre de 2000 euros, tout compris, frais de clinique, etc.
Mais qui peut être pris en charge dans certains cas. Docteur Benhabiba, on va constituer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous, bien sûr. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Laurent Benhabiba, chirurgien plasticien à Paris, à Genève, et spécialiste de la chirurgie intime. Alors docteur, dans cette chirurgie de l'intime, il n'y a pas que de l'esthétique. Parfois, c'est un problème fonctionnel, voire sexuel que les femmes ont. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'aujourd'hui, on peut agir sur un souci de laxité au niveau du vagin. D'abord, expliquez ce que c'est ce problème en fait, concrètement.
Alors, laxité vaginale, la définition finalement, c'est une définition très personnelle. C'est-à-dire que ce sont des patientes qui viennent nous voir en disant « Écoutez, c'est plus pareil depuis mon accouchement. » Alors ça peut être même après le premier, hein, pas obligatoirement après 3-4 grossesses. « Mes relations sexuelles ne sont plus pareilles. Je m'en plains moi, mais aussi mon partenaire, mon mari s'en plaint. » Donc c'est une sensation parfois un peu difficile à évaluer. Donc il y a toujours à rechercher une cause, hein, parce qu'il peut y avoir un déchirement, une cause physique, une épisiotomie qui a été mal cicatrisée. Et ensuite, il y a différents traitements qui existent.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors les traitements, le premier, c'est déjà voir s'il y a une bonne rééducation qui a
été
faite.
Ouais.
Du périnée, ça c'est fondamental. Mmh. Souvent, elle n'a pas été très bien faite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être encore faite, même tardivement. Une patiente, même 3-4 ans après, peut faire une bonne rééducation à condition d'être pris bien en charge par des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là.
Et sinon, laser et radiofréquence.
Ensuite, il y a aujourd'hui des machines. Hein. Alors, la plus efficace qui est sur le plan scientifique, c'est la radiofréquence qui va agir sur le muscle de façon à le retonifier. Ensuite, il peut y avoir aussi le laser. Et ça, c'est plus quand il y a aussi des atrophies ou des problèmes de problèmes urinaires, d'incontinence. Et après, reste la chirurgie dans les cas sérieux où là, il y a vraiment... souvent aussi un petit prolapsus qui est associé.
Mais ça, c'est pour les derniers recours. Alors, dans toutes les techniques esthétiques de l'intime, il y a aussi un gros problème féminin sur lequel vous intervenez maintenant de plus en plus souvent. C'est le problème de sécheresse vaginale. Alors, avant de parler de ce que vous proposez, on va écouter la question de Françoise sur le sujet.
Je suis ménopausée, j'ai le vagin atrophié et j'aimerais savoir, on m'a donné des ovules. Je suis un peu pessimiste, j'ai l'impression que les ovules, j'ai été obligée de les prendre tout le temps. Est-ce qu'il va y avoir une réelle amélioration avec des ovules? Et est-ce que c'est à vie maintenant que je dois en prendre pour voir avoir des rapports à peu près normaux sans douleur? Je vous remercie, au revoir.
Docteur, alors ce que dit Françoise, c'est qu'on lui a prescrit des ovules contre sa sécheresse vaginale. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en général. On est d'accord, c'est pas très efficace, hein, malheureusement.
Alors, effectivement, auparavant, il n'y avait que ces traitements locaux, type ovule ou gel. Alors, il fallait déjà y penser avant d'avoir un rapport sexuel.
C'est pas toujours pratique. Aussi, c'est ça.
C'est un peu un tue-l'amour. Donc, on sait très bien que les patientes, finalement, ne le font pas régulièrement et arrêtent carrément ce type de traitement.
Et justement, les problèmes de sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui est si fréquent que ça. Et en plus de ça, lorsque ces femmes en souffrent, elles sont vraiment touchées dans leur intimité?
Absolument. Aujourd'hui, on estime que plus de 70% des patientes ménopausées ont une sécheresse vaginale plus ou moins importante, parfois même sous TSH, hein, de traitement hormonal. Et un nombre important de patientes qui ont eu un cancer du sein et qui sont sous hormonothérapie souffrent de sécheresse très importante parce qu'elles, dans ce cas, elles ont une ménopause chimique qui est extrêmement forte.
Et là, ce sont des femmes jeunes en plus.
Voilà,
souvent,
donc c'est des femmes jeunes, c'est des femmes qui parfois n'ont même pas eu d'enfants et se retrouvent doublement punies, je dirais, par leur maladie.
Et donc là, la révolution pour ces femmes-là, pour ces problèmes de sécheresse vaginale, c'est l'acide hyaluronique, hein, c'est ça?
Voilà, alors ça fait plus de 5 ans, presque 7 ans, si vous voulez, qu'on s'intéresse à l'utilisation de l'acide hyaluronique qui est bien connu en médecine esthétique pour remplir les rides. Et c'est un puissant hydratant. On sait que l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui arrive à capter 1000 molécules d'eau. Donc, son pouvoir hydratant est très fort. On l'utilise aussi en cosmétique. Et là, en fait, l'utilisation au niveau gynécologique est aussi simple. C'est-à-dire qu'on va injecter une seringue d'acide hyaluronique. Ça va créer une hydratation. Ça va diffuser, donner de l'hydratation pour plusieurs mois au niveau vaginal.
Je crois que vous faites une injection à l'entrée du vagin simplement et ça diffuse dans tout le vagin, c'est ça ?
Exactement. C'est-à-dire que la peau, c'est sur un visage, on va devoir injecter un ensemble du visage. Sur un vagin, c'est une muqueuse, il n'y a pas de peau. Donc il suffit d'injecter l'entrée, les 3 premiers centimètres, pour une diffusion et une efficacité globale sur le vagin.
C'est dingue ça, Jimmy.
Vous parlez d'efficacité, mais on peut l'évaluer comment ? Les femmes qui ont recours, elles sont vraiment contentes et le résultat est important ?
Oui, alors il y a plusieurs moyens d'évaluer l'efficacité. Déjà, il y a des questionnaires de sexuels qu'on peut faire avant et après régulièrement, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 6 mois. Donc ça, c'est déjà une méthode d'évaluation. Il y a le pH aussi. Hein, souvent, ces patients ont un pH qui n'est pas physiologique, d'où des mycoses et des irritations supplémentaires. Donc ce pH change,
s'améliore.
Et puis bien sûr c'est dans la pratique de leur vie sexuelle qu'elles vont voir tout de suite la différence et qu'on aura un retour.
Parce que grâce à l'acide hyaluronique, le vagin il est à la fois plus hydraté et du coup il y a de la lubrification, c'est ça qui revient, il redevient fonctionnel.
C'est-à-dire qu'on va lui permettre de retravailler normalement. Il y a aussi un réel bénéfice psychologique, parce qu'on sait très bien que quand on a peur d'avoir mal, quand on a une sécheresse, le simple fait d'avoir un rapport va bloquer et forcément, une lubrification se fera moins bien.
Jimmy ?
Et il faut faire ça tous les combien de temps ? L'effet, il est durable dans le temps ?
Alors, il est durable. Aujourd'hui, on estime qu'il faut faire une injection à peu près tous les 6-8 mois. C'est un peu comme au niveau du visage. Maintenant,
parce que ça se résorbe, hein, c'est ça ?
C'est un produit qui se résorbe. Parfois, ça peut être plus longtemps. Finalement, ce sont les patientes qui en font la demande. Parfois, elles sont même un peu inquiètes du retour à une sécheresse. Donc, elles vont être demandeuses même en prévention. En tout cas, il n'y a pas de risque à en faire même plus souvent.
Mais alors, ça a sûrement un coût, par contre, hein, c'est ça ?
Alors, l'inconvénient majeur, c'est que ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Probablement, ça ne le sera jamais. Donc, ça reste un traitement de confort qui est équivalent au traitement que l'on fait pour les rides. Donc, c'est un coût qui est de l'ordre de 300-350 €.
Quand on vient pour la séance, quoi, c'est ça, voilà. C'est 300 €. Donc, 2 fois par an, à peu près, c'est l'idéal.
C'est le budget qu'il faut envisager.
Peut-être que le jour, ça sera... on réfléchit à un panier de soins dans le post-cancer, par exemple, à donner un financement à ces femmes pour certains soins comme ça. Ça pourrait être...
Effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse étude en cours sur plusieurs centres anticancéreux où on compare l'efficacité justement des traitements locaux type ovule et gel avec ces nouveaux traitements, acide hyaluronique, laser, radiofréquence, pour prouver leur efficacité et pour obtenir demain une prise en charge pour ces patients.
Merci beaucoup docteur Benadiba d'être venu sur notre plateau nous parler de ces chirurgies de l'intime. Et pour celles qui voudraient en savoir plus, vous allez sortir un livre 100 questions-réponses sur l'esthétique et la chirurgie intime chez Verzanobre Gréco Édition. Merci encore docteur.
Merci beaucoup.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du syndrome Gilles de la Tourette. Savez-vous de quoi il s'agit ? À quel âge en général on diagnostique cette forme rare de tic ? Et surtout, comment peut-on la soigner ? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est un peu lié à la trisomie ou pas ?
C'est référencé comme une maladie. Après, c'est génétique.
Qui sont insultantes tout le temps, qui disent des mots vulgaires à longueur de journée et qui n'arrivent pas à se contrôler.
Par des mots prononcés, et souvent c'est des gros mots qui sont prononcés.
Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est pas le syndrome qui fait que on ne contrôle pas ces mots.
Bah, c'est la personne, à mon avis, qui a découvert ce syndrome en question.
C'est encore un déséquilibré, je crois. Oh, c'est un problème psychiatrique, ça.
Je sais que j'ai eu une personne une fois qui devait venir à un entretien qui m'avait prévenu en amont en me disant « Voilà, je tiens juste à vous préciser que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Je peux avoir l'envie de vous taper si vous me regardez. »
C'est un peu le style de Greta Thunberg aujourd'hui. Un thème qui va lui tenir vraiment à cœur.
Alors non, ça n'a rien à voir avec Greta Thunberg.
Les réponses sont assez surréalistes quand même. Méconnaissance de cette maladie, entend beaucoup de choses assez...
Effectivement, donc c'est bien d'en parler. Alors Jimmy, c'est vrai que donc, le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un tic dont on a pourtant, j'ai l'impression, moi, entendu beaucoup parler par rapport à d'autres tics, parce qu'il se voit beaucoup quand on en a atteint. Précisez-nous peut-être de nouveau de quoi il s'agit. Justement.
Alors le syndrome Gilles de la Tourette, c'est une maladie neurologique. Donc c'est une maladie, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, c'est une vraie maladie neurologique. Elle est à composante génétique, elle se caractérise par des tics involontaires qui sont soudains, brefs et intermittents et qui se traduisent soit par des mouvements, on appelle ça des tics moteurs, ou des vocalisations, les tics sonores et les fameuses insultes qu'on peut entendre, qui sont parfois un peu caricaturés dans certains films. Le problème, c'est que s'ajoutent à ça des troubles du comportement. Les gens ont souvent, en plus de ça, un déficit de l'attention, une hyperactivité, des tocs, des crises de panique, des troubles du sommeil. Bref, c'est quelque chose qui est assez compliqué et lourd à vivre, notamment dans l'insertion sociale. Et pour la petite histoire, le syndrome Gilles de la Tourette, ça a été décrit la première fois au 19e siècle par un neurologue français qui s'appelait Georges Gilles de la Tourette.
Évidemment. Alors, ça touche combien de personnes ? Est-ce que c'est fréquent ? Et il faut préciser quand même que ce trouble, quand on en a atteint, c'est assez jeune que ça ressort.
C'est, la prévalence de ce syndrome est estimée à 1 sur 2000 personnes et ça peut passer à 1 sur 200 lorsqu'on parle des formes mineures. Les formes mineures, c'est celles qui sont transitoires ou certaines qui sont un peu chroniques mais moins importantes. Mm-hmm. On sait que ça touche plutôt les enfants, ça apparaît dans l'enfance, généralement entre 5 et 18 ans. Et ça touche un peu plus les garçons que les filles.
Non, d'accord, on va repréciser un truc, parce qu'on a entendu quand même quelques erreurs dans le micro-trottoir. C'est pas des trisomiques, c'est pas des malades mentaux, c'est pas des déficients intellectuels, on est d'accord ?
Exactement, ils n'ont absolument aucun problème intellectuel et donc ils n'ont aucun trouble cognitif et c'est des personnes comme les autres.
D'accord. Alors, quelle est la cause de l'apparition de ce trouble rapidement, Jimmy ?
Alors, on connaît pas la cause exactement, on sait qu'il y a une composante génétique et donc héréditaire et avec un terrain familial important.
Mais ça
et
reste assez mystérieux,
je crois. C'est mystérieux, exactement, ouais. On n'est pas trop sûr. On sait qu'il y a aussi des pistes environnementales qu'on explore. Alors, notamment, chez des mamans qui fumaient lorsqu'elles étaient enceintes.
Plus de risque d'avoir un enfant qu'à ça.
Exactement,
donc,
si elles consommaient de l'alcool, de la caféine ou si elles ont été soumises à un très grand stress. Et puis le poids de l'enfant, un faible poids du nouveau-né serait un facteur favorisant pour développer cette maladie, même si encore une fois, on est loin d'avoir exploré toutes les pistes pour savoir d'où ça vient.
Alors plus important, est-ce qu'on peut le soigner ? Est-ce que ça se guérit ?
Non, il n'y a pas de traitement curateur, pas de traitement, pas de médicament particulier. En revanche, on sait que la plupart des enfants ou des gens qui en souffrent, malgré tout, ont une forme plutôt mineure et des tics légers et n'ont pas besoin de traitement particulier. En revanche, on sait que quand ça altère la qualité de vie, l'insertion sociale ou professionnelle, à ce moment-là, on peut faire des thérapies, les thérapies comportementales qui peuvent aider et c'est les mêmes thérapies qu'on fait lorsqu'on a d'autres tics et parfois il peut prescrire un traitement antipsychotique, antidépresseur qui peut avoir des symptômes dépressifs associés ou des symptômes anxieux pour limiter l'impact de ce syndrome et avoir une vie quotidienne comme les autres.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions et pour conclure puisqu'on a fait le point aujourd'hui sur ce syndrome Gilles de la Tourette, je vous signale un film, ça s'appelle Brooklyn Affairs, c'est un thriller dans lequel l'acteur principal Edward Norton est justement atteint par ce syndrome.
15h 16h Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Amouyel.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on va parler du bien vieillir. Je suis sûre que ça intéresse tout le monde. On a tous envie d'être des jolis petits vieux en pleine forme d'ici quelques années ou même maintenant. Mais bien vieillir, ça a une définition très précise. Le bien vieillir en épidémiologie, c'est quoi ?
Alors en fait, dans une population comme la France, on vit tous de plus en plus longtemps. Alors c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Seul problème, c'est que malheureusement, souvent, on est beaucoup plus malade que quand on était jeune. Donc réellement, le bien vieillir, c'est d'essayer de repousser la fréquence, l'apparition, les complications de ces maladies le plus tard possible, voire même quelques mois avant le décès, et pouvoir profiter ainsi pleinement de ces années de vie en plus.
C'est ça, ce que vous appelez la morbidité, la compression.
La compression de la morbidité.
C'est avoir toutes les maladies à la fin.
À la fin, et on est quasiment en pleine forme. Voilà, c'est ça, on vit tous 100 ans. Il faut savoir qu'une petite fille va vivre, a une chance sur deux de vivre 100 ans aujourd'hui. Donc le mieux qu'elle puisse faire, c'est vivre le plus longtemps possible sans maladie et sans problème. Et finalement, dans les derniers jours de sa vie...
Ça serait idéal, on en rêve tous. Jimmy ?
Non, parce que ce qu'on craint, c'est une pandémie mondiale de maladies liées au vieillissement.
C'est exactement le modèle inverse. C'est-à-dire que l'espérance de vie, qu'on va dire sans incapacité, n'augmente pas aussi vite que l'espérance de vie totale. Et donc, on est tous de plus en plus malades. Et comme la population du monde a tendance à vieillir actuellement, on aurait une épidémie mondiale, ce qu'on appelle une pandémie, de maladies chroniques liées à l'âge.
Parce que l'espérance de vie, vous l'avez dit tout à l'heure, on vit de plus en plus vieux. Une petite fille aujourd'hui, moi j'ai une petite fille de 2 ans, admettons, elle a des chances de devenir centenaire.
Elle a des chances de devenir centenaire. Ça veut dire que si elle a 2 ans aujourd'hui, on est en 2020, elle vivra jusqu'en 2120.
Elle a une chance sur combien de...
Une chance sur 2, on dit aujourd'hui.
C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, aujourd'hui, c'est encore pas mal. Hein. On est chez les hommes, on progresse toujours. L'espérance de vie continue à progresser. On est à 79,5 ans chez les hommes.
Je crois que ça stagnait, moi, maintenant. Non, ça continue.
En France, non. On a toujours cette progression. 79 ans aujourd'hui, c'est les hommes. Et 84 ans, 85 ans chez les femmes.
Et vous disiez que l'objectif du bien vieillir, c'est de repousser ces maladies liées au vieillissement, admettons, aux 6 derniers mois de la vie, ça serait génial. Mais on pourrait pas aussi imaginer qu'il n'y a pas du tout de maladies liées au vieillissement et que finalement, on meurt un jour comme ça, hop, de sa belle mort. On s'éteint, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Mais sans maladie, c'est possible.
Bah, généralement, on s'éteint pour une mauvaise raison. Ouais. Sinon, on ne s'éteint pas. En fait, l'idée, ce serait plus d'avoir un décès exempt de douleur. Ça serait forcément par rapport à une maladie, puisque c'est vraiment l'opposé de la vie. Exempt de douleur, dans la sérénité et sans anxiété. Ce serait ça l'objectif idéal.
Alors professeur, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On veut que vous nous aidiez à bien vieillir. Hein. Vous êtes là pour ça, surtout pour aider Jimmy. Aujourd'hui, quand on atteint par exemple 60 ans, il nous reste donc en moyenne 20-25 ans à vivre. Et donc on a envie que ça se passe au top pendant ces 25 années suivantes. Mais ça, je crois que clairement, ça se prépare assez tôt. Hein.
Oui, en fait, un corps, ça s'entretient. Il faut en prendre soin tout au long de sa vie, le plus tôt le mieux. Alors malheureusement, quand on a 40 ans, quand on est jeune, on n'y pense pas tout de suite. Il faut attendre quelques petits symptômes là qui commencent à inquiéter les gens pour se modifier. Mais idéalement, c'est de commencer à 40 ans. Mais il faut savoir que si vous mettez en place ces mesures même tard, vous en tirerez toujours un bénéfice.
Même à 60 ou 65 ans, arrêtez de fumer, par exemple,
65 ans, 70
ans,
vous arrêtez de fumer, au bout d'un an ou deux, vous rattraperez un risque bien meilleur que si vous aviez continué à fumer. Donc c'est important de le faire de manière régulière et le plus tôt possible, si possible.
Alors justement, pour bien vieillir, il faut commencer dès 40 ans. Il y a plusieurs axes qui sont importants, notamment l'axe respiratoire. Vous parliez, donc arrêter de fumer, ça c'est clair, hein, c'est la règle, la première.
Ça, c'est un des premiers facteurs de risque. Supposer qu'on arrête, que toute la population française arrête de fumer, ça fait 70% d'accidents vasculaires en moins sur la planète. C'est un effet énorme.
C'est énorme. Jimmy ?
Et ensuite, il y a l'axe cardiovasculaire, c'est ça ?
Oui, l'axe cardiovasculaire, parce que c'est quand même cette pompe qui va nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Donc il faut que notre cœur soit en forme, et pour qu'il soit en forme, un des grands secrets quand même, c'est de le faire travailler, donc de faire de l'activité physique. Alors je ne parle pas de sport, de compétition, je parle juste de l'activité physique, la plus simple étant par exemple la marche. C'est très bien d'avoir un petit chien à sortir tous les soirs parce que ça vous oblige à marcher. Donc marcher, marcher quotidiennement est un élément important. Si vous aimez faire du sport, tant mieux. Si vous allez faire du sport le week-end,
encore plus, c'est mieux.
C'est encore mieux. Mais au moins ce minimum, un petit peu tous les jours. Et c'est vraiment le principe de la prévention.
Et ça, dès 40 ans, donc le cardiovasculaire, c'est donc l'activité physique, mais aussi bon, ce qu'on mange. Et le cholestérol, c'est important aussi, hein, surveiller
Alors,
son cholestérol.
Surveiller son cholestérol, et d'une manière générale, aux alentours de 45 ans, c'est bien d'aller voir son médecin et de faire un petit bilan, ouais, un petit check-up cardiovasculaire, où il va mesurer votre pression artérielle, ce qui est un élément extrêmement important, votre concentration de cholestérol. Pourquoi ? Parce qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent d'agir sur ces facteurs et dont on a démontré qu'ils ont un bénéfice et sur l'espérance de vie et sur la qualité de vie.
Pour bien vieillir, il faut aussi penser cancer, ça c'est une évidence, et autrement dit, dépistage. Donc ça aussi, dès 40-50 ans, on s'en préoccupe. C'est quel dépistage vraiment qu'il faut absolument...
Il y a les dépistages qui sont spécifiques aux hommes et aux femmes, bien sûr, et aux deux. Pour les femmes, c'est bien sûr le cancer du col de l'utérus, c'est bien sûr le cancer du sein, donc il faut voir ça avec son gynécologue, avec ses prescriptions régulières, ne pas hésiter à faire ces dépistages. Pour les hommes, c'est un peu plus tard, mais pour les hommes et pour les femmes, il faut penser à quelque chose qui est quand même la cause de décès la plus fréquente par cancer. C'est le cancer du tube digestif, le cancer du côlon. Or, il existe des dépistages qui vont chercher des petits saignements qu'on ne voit pas, qui sont totalement invisibles, avec un certain nombre de tests et qu'il faut faire régulièrement et qui permettent justement de traiter très tôt les lésions et de faire en sorte que l'espérance de vie soit conservée.
Un test dont on parle beaucoup moins souvent que le cancer du sein, mais on reçoit les kits de dépistage, on va faire à la maison. C'est très simple et ça vaut vraiment le coup. Jimmy ?
Moi, je dis souvent aux malades, n'attendez pas justement d'être malade avant de consulter. Donc, consultez même si on n'a pas de symptômes, en fait.
Exactement, je crois que c'est ce qu'on appelle la prévention. En France, on est quand même dans cette logique qu'on appelle biomédicale, c'est-à-dire je consulte quand j'ai un symptôme, c'est l'héritage de Louis Pasteur. J'ai de la fièvre, je suis malade, je prends des antibiotiques, je suis guéri. Aujourd'hui, on rentre dans un champ de maladies qui est complètement différent. C'est des maladies dont on ne guérit pas vraiment. On vit avec, on les supporte, on améliore sa qualité de vie. Et par exemple, le sida dont on parlait est vraiment devenu une maladie infectieuse et maintenant est une maladie chronique. C'est-à-dire on vit avec et on peut vivre longtemps maintenant avec. Donc c'est quelque chose qui est très important et pour le faire, il faut pas attendre les symptômes, parce que c'est déjà un petit peu trop tard, mais être un peu avant et savoir qu'à certains âges, il faut voir son médecin. 40, 45 ans, c'est bon pour aller voir son bilan cardiovasculaire.
Tous les ans, c'est ça, à partir de 40 ans, il faut aller voir au moins une fois le généraliste, quoi.
Oui, il faut voir, c'est comme son dentiste, quoi. Il faut le voir au moins une fois par an. Mais le problème, c'est qu'on a des difficultés à trouver des médecins généralistes, mais il faut quand même aller les voir.
Il faut essayer au moins, aller tous les ans et demi, on va dire, c'est déjà pas mal. Professeur Amouyel, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Alors professeur Amouyel, on continue notre dossier sur le bien vieillir avec vous. Si on veut être en pleine forme physique, on voudrait bien garder aussi un cerveau qui fonctionne bien jusque très tard. Et ça, pour le faire, l'un des secrets, ce sont les relations sociales.
Alors les relations sociales, c'est un des stimulus majeurs de notre vie. Les relations, les échanges, les discussions stimulent le cerveau en permanence. Le travail stimule le cerveau. L'activité quotidienne, les relations familiales sont des éléments majeurs de la stimulation. Donc être en couple, avoir des amis, voir ses amis,
Être en couple, c'est mieux qu'être divorcé quand on vieillit. Alors, c'est parfois on n'a pas le choix, mais c'est
alors, malheureusement, c'est parfois on n'a pas le choix. Ouais. Mais ceux qui sont en couple ont un risque qui est diminué de 40% de développer, par exemple, une maladie d'Alzheimer. Quel que soit le couple.
Ah ouais, et même si on se déteste et on se dispute tout le temps, parce qu'on peut rester ensemble parfois pour son cerveau, je sais pas, pour rester en forme justement, mais du coup, même en se chamaillant tout le temps, ça
même
vaut le coup.
Même en se chamaillant, ah quelle ouais. que soit la relation, l'important c'est d'être à deux, de ne pas être seul. La solitude étant un facteur difficile.
Ah ouais, Jimmy ?
Du coup, donc c'est clair que solitude et isolement, c'est un facteur de mauvais vieillissement, vu que le fait d'être ensemble permet de mieux vieillir. L'inverse du coup est vraiment vrai ?
Exactement. La solitude, l'isolement d'une manière générale, entraîne des réductions du fonctionnement cérébral, des réductions des fonctions cognitives, un oubli de soi qui fait que le nombre des maladies chroniques surviennent plus rapidement chez les gens, malheureusement, qui sont seuls.
Bon, et si on est en couple, en vieillissant, je crois que c'est bien d'avoir quand même pas mal de relations sexuelles. Ça aussi, c'est un facteur de bon vieillissement.
Oui, alors c'est aussi de la relation sociale, c'est de la relation humaine par définition. Et en fonction de l'âge, en fonction de la relation qu'on peut avoir, nécessite pas nécessairement des rapports sexuels quotidiens.
Avec ou sans pénétration d'ailleurs.
Voilà,
je crois
exactement.
Disiez,
le fait d'avoir des liens affectifs, des caresses, de s'embrasser, ouais. sont des éléments extrêmement positifs pour la stimulation. Vous imaginez bien que ce sont nos sens qui alimentent notre cerveau. Donc ce sens-là est aussi important.
Alors dans cette idée de stimulation intellectuelle, je crois que aussi l'âge de la retraite, alors ça a un impact sur l'état dans lequel on vieillit. Alors vous allez faire plaisir au gouvernement parce que pour bien vieillir, il faut la prendre le plus tard possible, la retraite.
Alors on s'est aperçu que dans les différents. Ce qui est intéressant avec l'âge de la retraite, c'est qu'on ne part pas parce qu'on a envie de partir. On part parce qu'il y a des seuils légaux qui diffèrent selon les pays. Et quand on compare les niveaux de fonction intellectuelle des gens 10 à 20 ans après le départ en retraite, et que ce seuil varie nécessairement, on s'aperçoit que ceux qui partent le plus tard en retraite conservent les meilleures fonctions cognitives avec l'âge, les meilleures fonctions intellectuelles avec l'âge. Donc le fait de travailler, de maintenir ce lien social est un élément important de ce stimulus.
Jimmy ?
Même si une fois qu'on part à la retraite, on peut quand même garder une activité
oui,
de bricolage, de cuisine.
Des randonnées, voilà. Ils n'arrêtent pas.
Ça ne suffit pas à compenser cette notion de travail ?
Alors oui, en effet, ceux qui sont sur des processus de type voyage, bricolage, tous ces éléments stimulent le cerveau. Alors, mais ce sont des activités qui sont extrêmement globales et qui nécessitent une énergie importante. Mais la plupart du temps, c'est pas ce que l'on observe. Ce sont des gens plutôt qui restent au repos. Alors, des fois, certains ont des activités bénévoles dans des associations.
Et mieux vaut ça que l'inverse. Ne pas
mieux vaut
avoir.
Ça que l'inverse, mais... on est d'accord. Mais il y a quand même des études qui montrent que si votre travail, qu'il soit supplémentaire par rapport à votre vie antérieure, est rémunéré, le bénéfice sur le plan intellectuel est bien meilleur.
Quel que soit le travail, en plus, finalement.
Quel que soit le travail.
Parce que par contre,
soit le travail.
Ou un travail pénible, difficile, et que bon, bah.
Il faut être payé pour que ça marche. Pour que ça
voilà,
si on n'est pas payé, le bénévolat, ça fait pas. Ça prévient pas la maladie d'Alzheimer.
Exactement. C'est ce que montrent les sciences neurocognitives qui analysent les raisons de la récompense et autres, que ce soit dans le jeu, dans les activités, dans les motivations. Et bien là encore, on s'aperçoit que c'est un facteur de motivation et de stimulus intellectuel.
C'est vachement intéressant. Alors, autre aspect qui est important pour bien vieillir, il faut pas être en déficit de vitamine D. Pourquoi ?
Alors, l'exemple de la vitamine D est important parce qu'en fait, une grande partie de la population française est en manque de vitamine D. Pourquoi ? Parce que pour fabriquer de la vitamine D, on a besoin d'avoir la peau éclairée par de la lumière.
Mais voilà, pas que le visage, hein, je crois.
Pas que le visage, il faut considérer la tête, les bras découverts et à peu près une demi-heure d'exposition par jour à la lumière. Malheureusement, dans notre vie quotidienne, on n'est pas dans ces situations-là.
Ici, on n'est pas gâté, hein, en région parisienne et à Paris.
Bon. Mais, et donc, il est nécessaire de compenser ce déficit de production, alors peut-être pas l'été puisqu'on est plus souvent exposé, mais au moins l'hiver, de penser à prendre des compléments de vitamine D qui sont prescrits par votre médecin.
Parce que c'est quoi le risque du déficit en vitamine D ? On se dit que c'est mauvais pour les os, mais pas que. Hein, c'est
alors
ça
bien sûr, on sait que l'atteinte osseuse est importante, c'est-à-dire que les gens ont développé une ostéoporose plus importante, moins de calcium dans les os, donc une plus grande fragilité, un risque de fracture. Mais on s'aperçoit aussi que ça a une action sur un certain nombre de neurones et de neurotransmissions. Par exemple, certains troubles de l'équilibre sont associés à un déficit de la vitamine D, des troubles mémoriels et également des troubles de l'humeur. On s'aperçoit souvent que des gens qui ont ces carences en vitamine D ont plutôt des tendances dépressives qui se corrigent extrêmement rapidement lorsque l'on vient assurer cette compensation.
Alors, pour terminer, autre aspect important, et ce sera le dernier, pour bien vieillir, bon, ça semble un peu évident, mais il faut bien entendre.
Et oui, on parlait de l'isolement tout à l'heure. Le fait de ne pas entendre génère un isolement. Puis l'autre cerveau n'aime pas ne pas entendre. Donc, notre cerveau entend un bruit, il comprend pas bien, il invente quelque chose autour et finalement, quand vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'entend pas bien, il vous répond complètement à côté. Et alors là, vous comprenez
pas. Donc il
n'est
pas stimulé en plus, lui.
Alors, le cerveau n'est pas stimulé, mais en plus, son mode de fonctionnement et son organisation interne se modifient en fonction de la baisse de surdité. Donc c'est pour ça que cette surdité, il faut, ou cette baisse d'audition, ce qu'on appelle la presbyacousie, comme on a la presbytie pour la vision, il faut l'appareiller très tôt. Alors, on n'a pas cette habitude en France pour deux raisons. La première, c'est que autant porter des lunettes, ça vous donne l'air intellectuel, autant porter un appareil auditif,
ça fait vieux.
Ça fait vieux. Voilà. Donc les gens
ne... et on a tort de penser ça parce que c'est indispensable.
C'est indispensable. Il y a des appareils qui sont
discrets. Il y a plus d'Alzheimer quand on n'est pas équipé, plus de maladies
dégénératives. Oui, on s'aperçoit que des gens qui ne sont pas équipés pendant longtemps et qui ont ça ont des troubles des fonctions intellectuelles beaucoup plus tôt. Puis le deuxième point, c'est le coût.
Oui, alors,
ces prothèses auditives.
Il y a quand même une prise en charge à 100% aujourd'hui. Enfin, le zéro reste à charge de Agnès Buzyn qui a été mis en place récemment. Ce n'est pas forcément les implants auditifs dernière génération. High-tech, mais c'est bien. C'est déjà...
Oui, c'est bien. C'est utile. C'est absolument, à mon avis, indispensable. On va voir ce que ça va donner. Ça a commencé cette année. Il serait vraiment important que, d'une part, le problème prix soit réduit. Et puis maintenant, il y a un problème culturel. Et il faut bien comprendre que soigner son audition, c'est aussi important que soigner sa vision.
Merci beaucoup, professeur Amouyel, d'être venu sur notre plateau. Nous donner tous vos meilleurs conseils pour que l'on vieillisse tous dans le meilleur état physique et intellectuel possible. Et donc, on retiendra que bien vieillir, ça se prépare dès 40 ans. Merci encore. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle arrive à l'instant dans le studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, vous allez bien ?
Très bien, écoutez, même pas essoufflée.
Bon, bah parfait, vous êtes arrivée tranquillement. Alors Catherine, on a une question aujourd'hui d'un certain Martin, je vous la lis. Donc Martin, il a 25 ans et il nous écrit la chose suivante. Je suis en couple avec mon copain depuis 2 ans. Mais voilà, depuis que nous avons aménagé ensemble il y a 6 mois, nous sommes devenus un vieux couple. Nous avons au mieux un rapport sexuel par mois. Je trouve que cela est peu et ça me pèse. Est-ce que c'est normal ? Bon alors Catherine, c'est fréquent quand même que ce soit d'ailleurs dans les couples homosexuels ou hétérosexuels, ces couples qui ont une baisse de libido un petit peu au moment où ils s'installent ensemble finalement.
Oui c'est ça, ils s'installent au sens propre et figuré du terme, dans une routine, dans une façon de fonctionner, dans une sécurité aussi. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas ensemble, on est toujours dans le risque de savoir où est l'autre, qu'est-ce que fait l'autre, à ce que l'autre pense à moi. Et du coup, la sexualité est un moyen de retisser le lien, de vérifier que le lien est toujours opérationnel. Une fois qu'on est ensemble, on se dit, bah voilà, je suis à toi, tu es à moi.
On dort dans le même lit tous les soirs, on a les pantoufles à côté de la cheminée.
Exactement, si on ne le fait pas ce soir, on le fera demain. Et si ce n'est pas demain, ça sera dans 10 jours. Et finalement, on fait passer d'autres choses ensemble, savoir le plaisir de cuisiner ensemble, le plaisir de regarder un film ensemble, le plaisir des tas d'autres plaisirs. Et la sexualité n'en est pas plus nécessairement le moyen, en fait, le moyen du lien.
Alors Jimmy a l'air d'avoir plein de questions, allez-y Jimmy.
Ah, il rit d'avance.
Attention,
accrochons-nous.
Non mais pourtant ils sont jeunes, ils n'ont pas l'âge de Mélanie, ils sont plutôt encore dans la fleur de l'âge.
C'est ça qui préparait.
Il préparait.
Et sans cette, on s'en met à leur maximum.
Oui, Martin, il a 25 ans,
ans
c'est ça. Pas tout à fait comme vous, mais presque. Hein,
pas loin, oui, pas loin.
Et oui, parce que en fait, le désir de faire couple, le désir de faire comme les grands, il est à tous les âges. Donc, on peut avoir 25 ans
et être un vieux couple.
Et être un vieux couple, absolument. Mais moi, j'étais très surprise il y a quelques années quand le terme de couple est arrivé dans la bouche d'adolescents en disant « ça y est, je suis en couple ».
À 15 ans.
Voilà, alors qu'on peut se dire qu'a priori, ça c'est un terme de quand on est vieux. Enfin, quand on est âgé, quand on est adulte, quand on est... Non, à 15 ans, une jeune fille me disait qu'elle était toute rassurée parce que la voilà en couple. Ben voilà, ils ont 25 ans.
C'est possible aussi.
Et ils se mettent en couple en pensant que le couple, ce n'est plus une histoire de sexualité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les couples homosexuels masculins, plus encore, puisque justement, la sexualité homosexuelle masculine est souvent très branchée sexe, au-delà, mettant de côté éventuellement la relation. Et dès lors qu'ils se mettent en couple, en relation, officialisant que...
Dans le même appartement.
Voilà.
Et pourtant, logiquement, ils ont plus d'opportunités de faire l'amour, puisqu'ils sont tout le temps ensemble, tous les soirs. Ils devraient le faire plus et pas moins.
Et oui, mais voilà, c'est tout. Bah oui, bah d'ailleurs, vous le faites tous les soirs, hein,
Mélanie. Ça vous regarde pas.
Vous, oui. D'accord. Ah, mais je croyais. Ben, en fait, on peut, mais on ne met pas, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et c'est bien aussi qu'il n'y ait pas de risque. Donc, on n'a pas à s'inquiéter non plus de ne pas le faire tous les jours. Ceci étant, si on se considère à 25 ans comme étant un vieux couple, on risque fort d'aller finir par aller voir ailleurs pour aller éprouver sa virilité, sa sexualité, sa jeunesse. Et du coup, il faut être quand même assez vigilant.
Jimmy ?
On est quand même d'accord qu'une fois par mois à 25 ans, on va pas dire que c'est insuffisant, mais ça semble un peu variant de la norme. Et donc, il faudrait, je sais pas, au moins une fois par semaine, non, pour avoir un...
Il veut le bon rythme, là. C'est
si vous le dites. Non, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup. Pour moi, ce qui est inquiétant, ça n'est pas que ce soit pas beaucoup. Ce qui est inquiétant, c'est que ça puisse, du coup, dans l'univers, et notamment là, dans l'univers homosexuel, devenir une vraie question, parce que les autres font l'amour tout le temps, les autres sont en recherche d'un nouveau partenaire, les autres veulent essayer telle et telle position ou telle et telle situation. Et donc, du coup, ça va devenir trop peu et ça va devenir une problématique. Sinon, dans l'absolu, une fois par mois, pendant 6 mois, parce qu'on est occupé à la déco ou on est occupé à inviter tous les potes pour faire
visiter...
Finalement, on peut aussi se dire que ça peut aller aussi.
Mais comment ils peuvent se remettre en selle, Martin et son copain? Est-ce que vous avez un petit conseil pour eux quand même? Ils viennent d'aménager depuis pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils doivent faire là?
Peut-être qu'il faut quand même qu'ils réalisent qu'ils se sont installés et que donc ils ont des choses à se proposer l'un l'autre en dehors de leur lit, en dehors de... Quand je dis de leur lit, je ne parle pas du lit, le meuble, mais au-delà du soir, mais comment ils vont pouvoir s'organiser des surprises, des attentes, des envois de messages, des clins d'œil en cours de journée pour ne pas s'endormir. Alors après, peut-être se sont-ils rencontrés pour justement se mettre à l'abri l'un de l'autre, auquel cas, eh bien, ça roule comme ça. Mais si la question est posée, c'est que d'un côté, pour l'un des deux en tout cas, ça n'est pas acceptable trop longtemps.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. On se retrouve bien sûr demain pour les meilleurs moments de Sans Rendez-vous. Dans un instant, vous retrouvez Philippe Gougler avec son émission Et si on partait, une émission de voyage au bout du monde, mais aussi en France. On va parler région, patrimoine, gastronomie. Je vous souhaite une très belle émission.